Europe 1.
Une équipe sauvage, confinée, mais toujours motivée, comme chaque après-midi, de 16h à 18h sur Europe 1. Durant 2 heures, donc, Mathieu Noël nous propose plein d'infos, de la bonne humeur, de quoi améliorer notre culture générale. Fidèle au rendez-vous, sa complice, Eva Rock, qui ne manque pas à l'appel, mais on va retrouver aussi nos journalistes d'Europe 1, prêts à batailler à coups de chronique. Bienvenue dans notre compilation du week-end. Au programme de cette première heure, de riches propriétaires allemands en colère, des solutions pour recycler les masques chirurgicaux, la revanche de nos régions, on ouvrira l'album Souvenir aussi de l'équipe sauvage, sans oublier la recette d'Olivier Pouls à réaliser en famille. Et on commence par prendre des nouvelles d'une personnalité.
C'est notre petit plaisir du confinement. Chaque après-midi, à défaut de pouvoir les accueillir en studio, on prend des nouvelles de nos stars préférées. Aujourd'hui, une star avec un grand S, un chanteur frappé de plein fouet par le confinement, puisque ses deux plus grands tubes tombent désormais sous le coup de la loi.
On allait au bord de la mer.
Ah bah non, c'est
Michel,
vrai,
interdit. Quant à son autre tube,
un peu parti, un peu nage, je descends dans la boîte de jazz.
Bonjour Michel Jonas, tout ça c'est interdit aujourd'hui.
Bonjour, très drôle. J'avais pas réalisé.
Ah bah nous, voilà. Oui, hein. On est
Michel,
malheureux.
On est malheureux, mais on est très heureux de vous avoir en ligne aujourd'hui. Merci. Michel Jonas, j'ai l'habitude de dire très franchement aux invités ce que je pense d'eux. Je suis un immense fan de tout ce que vous faites depuis très longtemps. J'ai lu, je me suis un peu renseigné, il paraît que vous bossez, vous faites partie des artistes qui sont inspirés par le confinement. J'ai entendu parler d'un nouvel album qui se préparait, alors que le dernier vient de sortir en octobre.
Oui. C'est vrai, je prends de l'avance. Je profite du moment de solitude pour écrire, parce que c'est ça dont j'ai besoin. Donc effectivement, j'ai ressorti mes stylos plumes, mes cahiers, et je prépare le troisième volet d'une trilogie que j'avais commencé il y a longtemps, c'est-à-dire hommage aux différentes musiques qui m'ont inspiré dans ma vie. Donc j'avais fait l'hommage à la musique tzigane à travers une pièce de théâtre à Brahms, j'avais fait l'hommage à la chanson française avec un album La Chanson Française, et il me manquait le volet de l'hommage au blues et au rock'n'roll.
Oh, génial.
Voilà, donc c'est ça que je suis en train de préparer. Donc je suis content, oui, c'est vrai, ça me plaît de me remettre à écrire comme ça.
Où est-ce qu'écrit Michel Jonas? Vous êtes dans un bureau, vous êtes justement dans le jardin,
oui.
en marchant, comment ça se passe?
Alors,
la création?
Quand il fait beau, je suis dans le jardin, effectivement. J'ai la chance d'avoir juste derrière moi un jasmin qui est tout en fleurs et qui embaume, c'est magnifique, le parfum du jasmin, c'est incroyable. J'ai un très beau marronnier qui en fleurs, etc. Et quand il fait froid, je suis à l'intérieur avec tous mes cahiers, etc. Voilà.
Un jour, à ce micro, Michel Jonas, Amélie Nothomb, l'écrivaine, nous disait qu'elle avait des dizaines, voire une cinquantaine en tout, de romans qu'elle n'avait jamais publiés, qui dormaient dans ses tiroirs. Quand on connaît votre perfectionnisme, il paraît que vous aussi, vous avez des chansons d'avance. Est-ce que vous êtes un peu ce syndrome Amélie Nothomb? Oui. Vous avez beaucoup de chansons dans vos tiroirs?
Oui, alors moi, j'ai des valises de cahiers. J'écris sur des cahiers d'écoliers, moi. Et j'ai des valises, mais c'est pas une image, hein. C'est vraiment des valises remplies de mes cahiers d'écolier, parce que vous pensez, depuis le temps que j'écris des albums, et quand j'écris un album, j'écris pas 12 chansons, j'en écris une trentaine, mais ça veut pas dire qu'il y a 30 chansons qui sont prêtes à être enregistrées, ça veut dire que c'est des débuts, ou bien c'est quelque chose qui me manque, ou bien c'est une strophe qui me manque, etc. Et à chaque fois que je me remets à écrire et à préparer un album, je me replonge dans tous ces cahiers, ce qui fait déjà un certain travail à faire. Oui, je suis comme ça. C'est-à-dire que même si j'avais aujourd'hui plus d'inspiration, ce qui est heureusement pas le cas parce que j'adore écrire le nouveau, mais effectivement je pourrais enregistrer quelques albums encore.
Eh bien cet été, on n'ira peut-être pas en vacances au bord de la mer, mais on pourra toujours l'écouter. Michel Jonas fait un bout de chemin avec nous cet après-midi.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Vous écoutez l'équipe est sauvage confinée, un confinement qui, vous le savez, va durer jusqu'au 11 mai. Mais Édouard Philippe l'a expliqué hier, les mesures de distanciation sociale vont, elles, être maintenues tout l'été. Un coup dur pour tous les Français, mais surtout pour notre invité Michel Jonas, qui va être contraint de réécrire un de ses plus grands tubes. Car oui, jadis, avant le Covid.
Oh là là.
On allait peut-être au bord de la mer.
Oh mon Dieu, c'est pas possible.
Mais cet été, on l'a dans le derrière. Le soir, on enfilera des gants pour aller se torcher au vin blanc. Mais il faudra faire attention à ne surtout pas oublier son attestation.
Vous êtes dingue, hein.
Sous peine
quand je pense que l'été dernier encore, Eva regardez les bateaux, elle succédait. Nostalgie, on ne continuera pas la chanson. On a une chance cet après-midi dans l'équipée sauvage, c'est d'être avec le vrai Michel Jonas, celui qui sait chanter.
Bravo.
Non, ne lui dites pas ça, ça va l'encourager, il va vouloir le refaire. Donc,
je vous en prie, Eva. On parle du déconfinement annoncé pour le 11 mai. Est-ce que c'est une perspective qui vous enchante, qui vous inquiète, Michel Jonas? Vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à tout ça?
Alors, moi déjà, par rapport à ce que vous venez de chanter là, j'espère quand même qu'on pourra y aller à la mer cet été, déjà premièrement. Alors j'ai plusieurs sentiments, c'est-à-dire que je commence à avoir un petit manque, une frustration sur deux plans. D'abord vraiment la scène commence vraiment à me manquer psychologiquement et physiquement, mon corps, et puis évidemment de prendre un ami dans mes bras quoi. Ça commence à être lourd, c'est-à-dire qu'on a besoin de ça, et c'est très curieux parce que bon, moi je fais mes courses, j'aime bien faire la cuisine, etc. Et alors ce truc de se regarder un peu en chien de faïence, ça j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Et paradoxalement en même temps, on se dit bonjour avec certaines personnes comme jamais avant. C'est-à-dire, on croise quelqu'un, tiens, bonjour, ça va. C'est là on sent qu'on a vraiment besoin des autres, quoi, et qu'on a besoin de se voir, de se croiser, de se toucher, etc. Vous voyez, quand on fait des courses, alors on fait la queue, etc. Puis alors, il y a un truc qui m'a vexé l'autre jour. J'arrive devant un grand magasin et une dame me dit, moi j'avais un masque, hein. J'avais un masque et j'avais une casquette. Et la dame, elle me dit, ben, vous n'avez pas besoin de faire la queue, vous avez plus de 70 ans. Oh, putain, ça m'a vexé. Je dis, mais comment cette dame, elle a pu voir que j'avais plus de 70 ans? Ça
m'a... Michel Jonas, plus sérieusement, quand vous avez entendu il y a quelques semaines le gouvernement dire les plus de 65 ans, les plus de 70 ans vont avoir un confinement un peu plus long que les autres, comment vous avez réagi hein?
Ça c'est le truc qui m'a un petit peu agacé. Ça me gêne parce que moi je pense pas qu'on a un âge, on en a plusieurs. On a évidemment l'âge qui est marqué sur la carte d'identité, mais aussi on a l'âge qu'on pense avoir dans sa tête hein. Ma mère un jour m'a dit, je raconte souvent ça, mais un jour à 94 ans elle me dit, tu sais Michel, moi je suis toujours aussi jeune mais ça se voit moins. Et moi, je suis un petit peu dans c'est vrai, c'est cet esprit-là. Et puis le corps, vous pouvez avoir un corps en parfaite santé à 70 ans et un corps un petit peu abîmé à 40. Donc ça veut rien dire et j'ai eu peur. Et donc, moi, j'étais rassuré quand même quand ils ont dit non, on va pas faire ça, on va pas les obliger, les anciens, à être confinés plus longtemps. Et puis l'autre chose qui m'a rassuré aussi, c'est que j'ai vu qu'ils avaient annoncé que les rassemblements de plus de 5000 personnes allaient être interdits. Donc moi, vous savez, tous mes spectacles, je les ai reportés. On en avait beaucoup, je les ai reportés en septembre, octobre, novembre, décembre. On a trouvé des dates. Donc normalement, ça devrait bien se passer, j'espère. Hein. Est-ce qu'il va y avoir un siège sur deux? Est-ce que les gens vont venir au concert ou au théâtre avec un masque? Ça va faire bizarre. Est-ce que moi, je vais être obligé de chanter avec un masque? Je ne sais pas si je vais pouvoir, franchement.
Comme ça, vous chanterez peut-être aussi mal que moi, Michel. Ça vous rapprochera de moi. Si vous mettez un masque, on sera à égalité. Michel Jonas, on était vraiment ravis de vous avoir un peu en ligne avec nous cet après-midi. On vous retrouve très vite, on l'espère, pour un live en studio, en public.
J'espère.
On se quitte sur quelques notes de ce morceau fabuleux qu'on a écouté, mais c'est tellement bon qu'on se remet le refrain. De foot pour ce morceau, dès que je l'ai entendu, comme ça je l'ai reprogrammé. Merci beaucoup,
merci
Michel Jonas, d'avoir été avec nous et plus globalement, merci d'exister.
Alors, merci beaucoup.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
La suite de l'équipe est sauvage, c'est juste après le dernier Grégory Porter sur Europe 1. I try to run, I grow weary, I try to walk. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down and I'm afraid. I'm afraid. But you lift me higher.
I tried to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day.
Avec impatience le nouvel album de Gregory Porter qui sortira le 28 août prochain. Vous y retrouverez son single Revival qu'on vient d'entendre à l'instant, produit au passage, disons-le, par Troy Miller qui a déjà œuvré pour Rag & Bone Man, Calvin Harris ou encore Amy Winehouse.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Avec Mathieu Noël et son acolyte Eva Rock. La compétition continue même en cette période de confinement. École, hôpitaux, économie, comment l'État jacobin a failli? C'était le sujet d'Axel de Tarlé cette semaine.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'info sans chichi, sans tabou et même par les temps qui courent, sans pantalon. Oui, en ce 42e jour de confinement, on peut vous le dire, chers auditeurs, on est comme vous, en télétravail. Et donc, c'est un des plaisirs du télétravail, en pyjama.
Ah
et
bon
encore, pour ceux d'entre nous qui ont le courage de s'habiller, car pour qui connaît un peu le sens de la litote d'Axel de Tarlé, je vous laisse deviner dans quel accoutrement il s'apprête à faire sa chronique.
Bah, je dois avouer, je suis pas en complet trois pièces.
Ah,
oui, c'est un
oui.
Autre service trois pièces qui prend l'air en ce moment pour Axel. Et pourquoi pas, à chacun son confinement. Mais Axel, quelle que soit votre tenue, la question que vous posez aujourd'hui est extrêmement importante. Face à la crise que nous vivons, contrastée hein, d'une région à l'autre, l'État est-il en train de toucher aux limites de la centralisation?
Exactement, la crise contrastée. On voit bien que c'est très compliqué pour l'État qui a l'habitude de tout gérer depuis Paris, de tout piloter. Vous savez, c'est l'héritage de notre État centralisé jacobin, comme on dit. Hein. On voit avec les écoles. Enfin, c'est très compliqué pour Jean-Michel Blanquer de rouvrir en même temps toutes les écoles de France. Il y avait d'ailleurs la semaine dernière, ça m'a beaucoup amusé, il y avait Renaud Muselier, parce qu'on entend du coup beaucoup les élus locaux dire bah, « Attendez, oh, arrêtez de tout vouloir gérer depuis Paris, là !»
Ah donc les élus locaux sont ont forcément l'accent
parce disait, non, mais parce que je parlais de Renaud Muselier qui dirige la région Grand Sud et qui est à Marseille.
Ah bah, l'imitation était de qualité.
Et voilà, et j'ai habité Toulon, moi, alors c'est pour ça l'accent du Sud, je sais bien le prendre. Il disait, écoutez, c'est comme si nous, depuis Marseille, on avait la prétention de vouloir ouvrir tous les hôtels de France. Vous trouvez ça ridicule? Eh bien, c'est ce que vous faites. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on réalise bien, et d'autant que l'État n'a pas été un formidable organisateur. On l'a vu avec les masques. Il est même allé, souvenez-vous, jusqu'à réquisitionner, enfin, il y a eu cette polémique, les masques qu'avait commandé la région Bourgogne-Franche-Comté.
Axel, excusez-moi là-dessus. Est-ce que je peux vous interrompre là-dessus? Je pourrais m'ériger en défenseur de l'État. Ce qui m'arrive rarement, je ne veux pas défendre les gens au pouvoir, mais juste la crise des masques. On a à un moment, il y a quelques années, on n'a pas recommandé de masques, donc c'est à ces gens-là cette administration-là qu'il faut s'en prendre. Aujourd'hui, il n'y avait pas de masques, donc ils n'allaient pas les créer. Je ne comprends pas trop ce débat sur les masques, en fait.
Bah d'abord, vous voyez bien, il a été incapable de fournir des masques. Et donc, face à cela, les régions se disent prenons-nous en main. Et c'est ce qu'elles font, la région Grand Est. Je dis écoutez, c'est moi qui vais m'occuper de mes tests. C'est moi qui vais m'occuper. Ils ont créé un fonds pour les entreprises. C'est moi qui vais m'occuper d'aider mes entreprises. Et je vous, et la semaine dernière, Emmanuel Macron a reçu a été en visioconférence avec ses grands élus régionaux. Et on voit bien que, comment dire, il y avait un peu d'humilité. Il y a un peu d'humilité, je trouve, désormais du gouvernement central, face à la diversité des terrains. Et autant il y a 2 ans, il y avait un côté folklorique. Vous vous souvenez quand Emmanuel Macron avait fait le tour, on a l'impression que le président va en province. Oui. Voyez, il avait fait le tour des régions un petit peu comme Tintin. Là, on sent qu'il y a une volonté de dire, écoutez, je ne peux pas m'occuper de tout. Alors, on n'emploie pas le mot décentralisation, on emploie le mot de déconcentration. Je ne vois pas tellement la différence. mais écoutez, tant mieux si cette crise permet de prendre conscience que les régions sont parfois plus à même de piloter, et parce qu'elles sont au plus près du terrain, que l'État central depuis Paris, qui produit des normes, de la bureaucratie et des règles. Tant mieux. D'ailleurs, je vous rappelle que François Hollande avait créé les régions en 2016, exactement sur le modèle des Länder allemands, de grandes régions, en se disant, finalement, les Länder allemands montrent, on l'a bien vu, notamment en matière sanitaire, les grandes régions sont plus efficaces pour gérer au quotidien. Alors justement, puisqu'on est lundi et qu'il faut faire des petits jeux et des petits quiz, j'ai prévu de terminer cette chronique par un petit quiz amusant. Alors, par exemple, les régions sont nouvelles et elles ne sont pas toujours très bien identifiées.
Oh là là, mon Dieu.
Donc on va faire un petit test. Alors je vais commencer très facile pour vous, Eva. Les Alpes-Maritimes, c'est quelle région?
C'est Grand Sud, c'est ça? Je ne sais même pas comment on l'appelle.
Grand Sud?
Ouais.
Ça s'appelle toujours PACA.
Oui, ça s'appelle toujours PACA, oui, mais on dit Grand Sud aussi. Moi.
Alors, plus difficile, le Gers. C'est quelle région, le Gers?
Auvergne.
C'est en dessous. C'est l'Occitanie, c'est ce que j'allais dire.
Exactement. Qui est piloté depuis.
Alors là, depuis Toulouse.
Toulouse, ouais. Bravo. Bon, alors, mais je vois que je tape un peu haut avec mon quiz. J'aurais dû faire plus simple.
Oui, bon, ça va, Axel. Là, vous n'aurez pas mon point.
La Corrèze, c'est quelle région? Alors, c'est pas l'Occitanie, c'est l'autre.
C'est le
centre. Non, c'est plus à l'ouest. Non, c'est une catastrophe, c'est la Nouvelle-Aquitaine.
La Nouvelle-Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine. Vous savez quoi, ce qui est bien, c'est qu'on est monté, cette émission est enregistrée, donc on va couper cette séquence.
Oui,
Que je suis très, parce que j'ai quand même fait Sciences Po, donc on va pas découvrir que je connais pas les régions. Donc tu me couperas tout ça, mais non, c'est ce que j'ai dit avant qu'il faut couper. Là, c'est quoi, Gilles? Mais ils comprennent rien en régie. Merci, c'était Axel de Tarlet.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël, Eva Rock et à présent l'un des correspondants d'Europe 1 avec le déconfinement, les Allemands se jettent non pas sur la bière et les saucisses, mais sur... Vous allez le savoir tout de suite dans un instant. Donc.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission hybride qui chaque après-midi vous tonifie les zygomatiques tout en musclant vos neurones et en vous ouvrant de nouvelles perspectives. Car c'est ça aussi l'équipe est sauvage, un rire français mais un regard sur le monde. Grâce à la plus-value unique de nos correspondants à l'étranger qui, fort de leur connaissance exceptionnelle du pays où ils vivent, nous éclairent chaque jour de fort belle manière, comme Henri de la Guérie hier en Espagne. Dites-moi juste, vous avez dit Majorque, moi je dis Majorque. En fait, on dit, quand on parle espagnol, on dit Majorque en fait.
Ici on dit Mallorca.
Ah.
Et en français on dit Majorque.
Ouais.
On peut dire Majorque comme vous voulez.
Ah d'accord. C'est ce qui s'appelle faire avancer le schmilblick. Faro avanzare el schmilblicko. Alors Hélène Kohl, j'avais envie de vous demander si en Allemagne on disait plutôt Karlsruhe ou Karlsruhe, mais comme vous n'en avez foutrement aucune idée, on va passer directement à votre chronique. Son thème, la fin de la love story entre les Allemands et les saucisses.
Alors ça, c'est une phrase magique. Est-ce que vous pourriez la répéter, Mathieu?
Je pense qu'une fois, ça suffit. Hélène, c'est à vous.
Alors, en fait, cette chronique m'a été inspirée par un tweet publié à l'issue de la toute première journée de déconfinement ici. C'était lundi 20 avril. En fait, c'était une Française qui vivait dans le Bade Württemberg, la région de Stuttgart et de Karlsruhe, posait cette question. Voilà. Maintenant que les commerces de moins de 800 mètres carrés rouvrent leurs portes, sur quoi se jettent les Allemands? Alors évidemment, il y avait le clan cliché, les internautes qui répondaient la bière, les saucisses, les bretzels, les concessionnaires automobiles. Eh bien non, bien sûr que non. Tous ceux qui vivent ici ou qui connaissent un petit peu les Allemands, ils savent bien, eux, quel est le produit qui rend les Allemands complètement accros. Et c'est c'est les glaces. Le retour de la liberté ici a rimé avec ruée sur les glaciers, avec des files d'attente de plusieurs dizaines de mètres dans les rues passantes de Munich, de Stuttgart, de Karlsruhe et de Cologne.
Mais parce qu'il fait beau, Hélène, c'est ça?
Alors attendez, parce que à Berlin, figurez-vous que la capitale allemande avait mis les glaciers dans la liste des commerces essentiels pendant le confinement. Donc on n'a pas vu de file d'attente à Berlin. Et puis, situation un peu absurde, il neigeait encore ici, la première semaine du confinement, et pourtant, les glaciers étaient ouverts et ils étaient fréquentés. Les Allemands adorent les glaces, ils en mangent quelle que soit la saison. Ici, à Berlin, c'est un chiffre tout à fait officiel, dans certains quartiers, il y a plus de marchands de glace que de pharmacies.
Ah bon ?
Et l'une des raisons, c'est parce que c'est un plaisir bon marché. L'Allemagne est le pays d'Europe où la boule de glace coûte le moins cher en moyenne, 1,44€. Et dans mon quartier, à côté de chez moi, c'est 1,20€. Et mes favoris du moment, c'est sorbet rhubarbe et sorbet chocolat noir. Voilà, vous savez tout sur les glaces et les Allemands.
C'est peut-être ça le secret des Allemands contre le coronavirus, en fait.
Eh oui, c'est la glace.
Peut-être que la glace est un traitement de pointe, en fait, contre le virus.
Ouais.
Deuxième cliché que vous allez battre en brèche, probablement, les Allemands mangent des patates.
Ah bah oui, non mais ça c'est vrai.
Alors oui, c'est vrai, mais pas quand arrive le mois d'avril. Parce que là, il y a une autre folie qui s'empare du pays tout entier, ce sont les asperges. Elles poussent assez bien. Non mais c'est vrai. Ça va très très loin, parce qu'elles poussent un peu dans les sols sablonneux, par exemple autour de Berlin, extrêmement bien, et elles donnent lieu à des véritables cultes. L'asperge, c'est le totem des Allemands, un peu comme le Beaujolais nouveau en France. Vous voyez, quand arrivent les asperges, on s'invite chez les uns, chez les autres pour les goûter, il y a des opérations commerciales, etc. Sauf que là, grosse angoisse. La récolte risquait d'être perdue à cause du coronavirus, puisque les agriculteurs n'avaient personne pour aller cueillir les précieuses asperges dans les champs. Alors figurez-vous que le gouvernement a affrété spécialement des charters début avril pour faire venir 20 000 saisonniers.
Non, pas Ramadis, non.
Parce que lui aussi, il aime l'asperge, si je ne m'abuse.
Non. Alors des saisonniers bulgares ou roumains pour sauver les asperges et les papilles des Allemands. Et c'était des images assez terribles parce que d'un côté, on avait la frontière fermée, notamment avec la France, et les frontaliers français qui se faisaient insulter quand ils passaient la frontière pour aller travailler en Allemagne. Et puis de l'autre côté, on avait le gouvernement qui entassait littéralement des centaines de Roumains et de Bulgares dans des avions. Puis dans des baraquements aux abords des champs ici autour de Berlin, juste pour le palais gourmand des Allemands. Maintenant, ça fait 15 jours qu'on a les asperges sur les étals des maraîchers ici, à un prix record évidemment, plus 20%. Mais bon, c'est pas grave, les Allemands se jettent dessus, sans trop d'ailleurs respecter les règles de distanciation sociale. Ces derniers jours ont apporté vraiment un cruel désaveu à tous ceux qui pensaient encore que les Allemands étaient disciplinés. Ici, c'est le grand relâchement et le grand n'importe quoi. Pique-nique dans les parcs, foot, barbecue, bien que tout ça, en théorie, est encore interdit jusqu'au 4 mai.
Alors Hélène, on a bien compris, les asperges, les glaces, c'est passion allemande, mais enfin, cette chronique que vous venez de réaliser n'aurait pas pu être de ce niveau-là sans l'apport de la bière, forcément.
Alors voilà, et la bière, encore une fois, attention, grande perdante de ce printemps corona. Les Allemands ont bu de préférence du vin, du gin, du schnapps, des cocktails prémixés, du porto. Et ensuite, seulement en numéro 6, arrive la bière. Au point que plusieurs brasseries ont déjà déposé le bilan. Et quant à la fête de la bière, la fameuse Oktoberfest de Munich, elle n'aura pas lieu cette année et ça ne s'était pas produit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Bon, rien ne va plus en Allemagne. Si on ne peut plus manger ni de patates, ni de saucisses, ni boire de bière, c'est foutu.
Hélène, comment on dit « tout fout le camp » en allemand?
on peut faire une belle blague avec les saucisses. « Alles hat ein Ende, nur die Wurst, die hat zwei ». C'est un peu « tout a une fin, mais la saucisse, elle en a deux, en fait.
D'accord. Hélène Cole, vous avez déjà mon point. Tout à l'heure.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Partout dans le monde, des chercheurs planchent sur des solutions pour désinfecter et recycler les masques chirurgicaux au lieu de les jeter. Et ben on en parle dans l'équipe est sauvage dans un instant avec Mathieu Noël et Anne Le Gall. Mais avant, Boulevard Désert avec Bruxelles sur Europe 1.
Si je te connaissais pas encore, notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse, que j'aurais pu ne désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es le seul, qui reste planté à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. S'il ignorait tout bout de toi. Je resterai tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, je mâterai tes fesses à ton insu. J'aurai le compliment facile, je serai l'homme fort et le docile. Ce dernier que je ne serai plus, mon amour, je nous ai perdus. Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. C'est du dripping, t'es un cadeau pour la rétine. T'es sur une toile de Mondrian que je saccage de mille couleurs. Je t'ai sans vergogne et sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je vous imagine même en camping à Bruxelles. Il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore. Il y a ceux, il y a celles qui restent plantés à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles.
Boulevard désert avec Bruxelles. Europe 1,
16h-18h, l'équipée sauvage.
Comment décontaminer les masques chirurgicaux et FFP2 afin de les réutiliser? Scientifiques, médecins et industriels se penchent sur la question et on en a parlé cette semaine sur Europe 1 dans l'équipée sauvage avec Mathieu Noël, Eva Rock et Anne Le Gall.
Bonne humeur, journalisme sont, vous le savez, les deux mamelles de l'équipée sauvage. Mais par les temps qui courent, j'ajouterai une troisième mamelle. Ça commence à faire certes beaucoup de mamelles, mais il ne faut pas chercher à visualiser. Cette troisième mamelle qui pendouillerait entre la bonne humeur et le journalisme, ce serait la solidarité. Une valeur qui est au cœur de la philosophie d'Ici les Bonnes Moules, la communauté écolo-décroissante d'Ici les Moulineaux, fondée par Anne Le Gall, notre expert environnement. Philosophie inspirée des œuvres de Proudhon, de Rousseau, mais également de ce socialiste qui faisait du socialisme sans le savoir, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose. Anne, vous êtes une des toutes premières à avoir rejoint le courant de pensée enrico-massiste. Vous vivez littéralement pour votre prochain. Et une question vous turlupine actuellement. Pourquoi ne trouverait-on pas un moyen de recycler tous ces masques à usage unique qui s'apprêtent à partir à la poubelle dans les semaines qui viennent?
Eh bien voilà, c'est une bonne question. Alors je précise tout de suite que je ne vous parle pas des masques grand public qui sont en tissu, lavables et qu'on peut passer à la machine. Je vous parle des masques sanitaires qui sont donc réservés aux soignants et aux malades sur ordonnance, donc les fameux FFP2 et les masques chirurgicaux. D'ailleurs, au passage, vous savez ce que ça signifie, les lettres FFP?
Non. Vous allez nous le dire.
C'est en anglais, j'imagine?
Oui, c'est de l'anglais. Ça signifie Filtering Face Piece, donc pièce faciale filtrante. Ensuite, le chiffre 2, c'est le niveau de filtration du masque. Donc le 2, c'est un niveau de 90% de particules filtrées. C'est le niveau nécessaire pour faire barrière au virus. Il existe aussi un niveau 3 qui filtre 99% des particules. Et là, ça sert par exemple à filtrer l'amiante ou certaines molécules dans des gaz polluants. Donc ça, je ferme la parenthèse. Hein, c'était la minute culture G. Donc aujourd'hui, ces masques, vous le savez, les masques chirurgicaux ou FFP2 ne se lavent pas. Ils ne se recyclent pas. Ils sont à usage unique. Il faut les jeter au bout de 4 heures. Ce qui évidemment génère beaucoup de déchets, mais c'est pas le problème principal, c'est que aujourd'hui ça semble carrément aberrant cette situation dans une période de difficulté d'approvisionnement.
Bah oui. Ouais.
Et donc, et voilà, c'est pour ça que partout dans le monde, des chercheurs planchent sur toutes les techniques qu'on pourrait trouver pour les désinfecter, donc pour éliminer la moindre trace de virus masques usagés. Donc évidemment, il s'agit de ne pas les abîmer, de ne pas altérer leur capacité de filtration. Alors, c'est vraiment très sérieux cette histoire parce que en France, les équipes qui travaillent là-dessus relèvent de nos plus gros instituts de recherche. Donc, il y a les CHU, bien sûr, mais aussi l'INSERM, le CNRS, l'Agence de sécurité sanitaire, le Commissariat à l'énergie atomique. Et les recherches sont en cours depuis le début du mois de mars.
Et du coup, quelles sont les pistes, Anne, pour nettoyer ces masques médicaux?
Alors, c'est vraiment la grosse artillerie. Hein. Il y a une équipe qui planche sur une irradiation par des rayons gamma, donc des photons à très haute énergie, ou encore sur un lavage par des faisceaux d'électrons, des rayons bêta. Et il y a une autre équipe qui travaille sur le nettoyage avec des détergents à 95 degrés, ou alors un passage dans un autoclave à 121 degrés pendant 50 minutes. Donc l'autoclave, c'est une machine industrielle qui sert à la stérilisation. Et si on regarde les travaux, il y a une autre équipe qui planche aussi sur la chaleur sèche. Donc le passage dans un four très chaud, ils vérifient que ce ne serait pas plus efficace que la chaleur humide. Et à l'étranger, les Américains et les Chinois travaillent aussi sur l'efficacité des ultraviolets pour nettoyer ces masques. Et les Hollandais étudient la piste du peroxyde d'hydrogène.
Et ça va coûter une fortune hein, de faire du recyclage. Hein.
Très bonne remarque. Non, mais... Eva, est-ce qu'on sait déjà au moins, parce qu'on ne sait pas combien ça coûte, mais est-ce qu'on sait si ça fonctionne?
Oui, Eva a raison, il y a la question du coût, il y a la question aussi du passage à grande échelle. Alors pour l'instant, la piste de l'autoclave, donc chauffage à 121 degrés et celle des UV et des rayons gamma semble être prometteuse. Mais voilà, il faudra vérifier non seulement que ça fonctionne en laboratoire, mais qu'on peut aussi l'appliquer à tous les masques à grande échelle.
Et en attendant, on peut rappeler, Anne, que pour les masques en tissu grand public qu'on va tous avoir bientôt, le lavage à 60 degrés suffit.
Voilà, donc lavage à 60 degrés pendant 30 minutes au bout de 4 heures d'utilisation du masque, hein, c'est 4 heures maximum. Donc on utilise sa lessive habituelle pour le lavage, pas d'adoucissant, on n'utilise surtout pas d'eau de Javel qui risque d'abîmer le masque et de laisser des particules toxiques sur les fibres. Et ensuite, il faut bien penser à faire sécher son masque en tissu. Et là, ce sont vraiment les consignes des autorités sanitaires.
Je précise, ne pas faire sécher son masque en plein air surtout. Vous le faites sécher à l'intérieur.
Pourquoi?
Et oui, parce qu'en plein air, vous risquez de choper tout ce qui flotte dans l'air, quoi. C'est pas bien pour votre masque.
En plein air, si on est dans un jardin, par exemple, on peut le faire...
Non, faites-le à l'intérieur. Ouais. Et vous le faites pas à la sécheuse non plus.
Une consigne en plus d'Eva Rock, du CNRS et d'Europe 1. Merci beaucoup, Eva. Merci surtout, Anne Le Gall. On vous laisse reprendre le cours de vos activités. Je crois savoir que cette semaine, vous perfectionnez votre anglais grâce à l'appli Duolingo. Ça marche bien?
Not in my backyard. J'ai des progrès à faire.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.
Dans un instant, on ouvre l'album Souvenir de l'équipe sauvage avec Monsieur Poulpin. On va le retrouver, c'est le créateur de l'émission Crac Crac et puis aux commandes aussi de Poulpo Vision diffusée sur Canal+. Ce sera juste après Mini Reportan sur Europe 1. Loving you. Every day. ex-membre du Rotary Connection, connu pour ses 4 octaves et demi et ce single Love in You sorti en 1975. C'était Minnie Riperton sur Europe 1.
Heures, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Apprendre et se divertir à la fois, comprendre le monde sans oublier d'en rire, telle est la promesse de Mathieu Noël chaque après-midi en compagnie de son acolyte Eva Rock. Alors le 12 février dernier, eh bien, l'humoriste et chroniqueur Monsieur Poulpe était l'invité de Mathieu Noël. Il était venu nous parler notamment de son actu.
Cette émission, c'est un peu une merguez. On sait à quoi ça ressemble, mais on sait pas trop ce qu'il y a dedans.
C'est tellement nous.
Bonjour, monsieur Poulpe.
Bonjour. Alors, vous êtes un peu la merguez de la radio en France, Mathieu.
Exactement. C'est bien vu. Alors, pour moi, vous êtes une légende, monsieur Poulpe, mais si jamais votre légende n'était pas arrivée aux oreilles de certains de nos auditeurs, je rappelle que vous êtes l'inoubliable présentateur de Feu, les recettes pompettes. Aujourd'hui, vous présentez Poulpovision, une émission tout aussi déjantée, mais sans alcool. Et vous vous lancez aussi dans la BD avec Alain au Pays des Merveilles, la première BD dont vous êtes le crayon. Vous nous expliquez vite fait le concept, c'est interactif, c'est nous qui devons dessiner la BD.
Oui, c'est uniquement par flemme.
je comprends le concept.
Non, mais en gros, on a créé une BD avec David Mourier où il y a des endroits qui sont effacés par un méchant. Et donc, c'est au lecteur ou à la lectrice d'aider à re-remplir la BD pour faire avancer la narration. Donc, c'est un truc où chaque BD sera unique, du coup.
Dans votre émission Poulpovision, qui est aussi un joyeux bordel, l'invité dispose d'un bouton promo sur lequel il peut appuyer pour qu'on revienne à sa promo si jamais on s'éloigne trop
D'accord.
du sujet.
Donc, j'en ai un.
Ici aussi, vous avez cette possibilité. À tout moment, vous appuyez sur Eva Rock. Ça fera. Et Eva récitera votre promo. Vous êtes prête, Eva ?
C'est moche, ça.
Vous êtes prête ? J'aimerais, avant même de commencer la promo, sensibiliser les gens à l'univers de Monsieur Poulpe, que oui. même moi, qui suis pourtant quand même dans le milieu un petit peu, devrais connaître mieux que ça, eh bien, en regardant toutes vos vidéos hier sur Internet, j'ai découvert qu'il y avait quand même un niveau de production dans tout ce que vous faites, mais tout est léché. Quel but ? Comment vous
tout est léché, Mathieu.
Tout est léché, surtout dans Crac Crac, oui. votre émission qui est devenue un podcast aujourd'hui, sur le sexe. Où vous trouvez ces moyens ? Comment on finance des plateaux comme vous faites, avec des productions, des décors, des costumes ? C'est assez impressionnant.
Il faut avoir du bagout. Il faut avoir de l'entre-gens. Là, tu parles des sketchs du Studio Bagel, j'imagine.
Oui,
entre autres, ouais.
Bah, Studio Bagel, c'était.
Oui,
il y avait de l'argent à l'époque où le Studio Bagel existait. C'était Canal+ qui finançait. Ils avaient réussi à trouver un bon modèle économique qui faisait que, par exemple, si je disais, ouais, j'ai une idée de sketch où il y a un alien qui se branle dans l'œil d'un paysan, il y avait beaucoup de budget pour faire ça. Il y avait beaucoup de budget pour faire ça. Donc, j'ai eu de la chance, surtout.
Son nom est Poulpe. Monsieur Poulpe passe l'après-midi sur Europe 1.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Stéphane, on va y aller avec les doigts. Mais et je parle de la recette.
Vous écoutez l'équipe est sauvage avec Monsieur Poulpe aujourd'hui. Et Monsieur Poulpe, les recettes pompettes appartiennent au passé. Hélas, pas hélas. Quel est votre point de vue là-dessus ?
Nonobstant ! Je vais choisir l'entre-deux. Hélas, bien sûr, c'était génial à faire. Tout le monde s'amusait, en fait, de la préparation de l'émission au tournage et après à l'accueil du public. Donc ouais, non, c'était vraiment génial. Et puis moi, j'ai énormément de mal à faire le deuil de ce programme parce que tous les jours, on me le rappelle.
Mais oui,
ça n'a pas été facile.
Mais c'est vraiment tous les jours. Pour de vrai, il y a vraiment... peu importe la boîte de messagerie, j'ai tout le temps des messages ou dans la rue et tout. Donc ouais. Mais on essaye, hein. On essaye de relancer.
Quelle a été la personnalité la plus enivrée ?
En vrai, il n'y a pas de compète. Tout le monde est reparti à genoux. Ouais, après, il y en a eu des pires que d'autres, mais oui. Je ne vais pas le dire. Ces mains que vous voyez ont essuyé le vomi de la chanteuse de Texas, par exemple.
Voilà. Ah, ça, c'est beau.
Voilà.
Ça vous touche, Jean-Philippe Ballard, visiblement.
En principe, elle doit bien tenir, quand même, Félix Piteri.
Ah oui, mais c'était une sacrée émission, hein, attention. Hein.
Et vous, il y avait de l'eau ou pas dans vos verres à vous ?
Alors, en fait, il n'y avait jamais de shot d'eau. Après, il y avait des fois des shots de vodka coupés à l'eau, mais pour des parce que, en général, ça dépendait, mais quand mes invités étaient beaucoup trop sous dès le début de l'émission, en fait, je devais un peu calmer le truc. Donc pour que ça tienne en fait tout le long du tournage. Donc des fois on coupait un peu à l'eau, mais voilà, on gérait à peu près comme ça, mais il n'y a jamais eu de shot d'eau quoi.
Une fois de plus, je le précise pour nos auditeurs qui vous suivent peut-être pas sur YouTube ou sur Canal+, il faut bien expliquer que Les Recettes Pompettes, c'était une émission qui était vraiment bien foutue, qui était vraiment bien produite,
hyper bien
très
produite.
Drôle, très bien écrite. C'était pas juste on buvait en
cuisine. Ah ben
non, le
challenge, c'était de faire un truc très propre à l'image pour que le contenu soit très dégueu. Ce que j'ai refait après.
Vous adorez jouer avec les formats, les concepts, comme un certain Antoine Decaune, avec qui vous avez travaillé d'ailleurs. Est-ce que c'est un modèle pour vous, Antoine Decaune, une référence?
C'est oui, plus que mon père à la télé, c'est ma mère, quasiment, parce qu'il m'a enfanté. Je suis sorti du colon d'Antoine Decaune. Je sais pas ce que je suis en train de dire.
L'image est belle.
Ouais. Mais Antoine m'a énormément appris. Et puis il y a un vrai truc de. Enfin, je me reconnais complètement dans ce qu'il fait, dans la façon dont il le fait. Et moi, je suis complètement dans ce truc-là. Et il m'a énormément appris. Ouais.
Depuis le mois de novembre, on vous retrouve aussi dans Crac Crac, le premier podcast qui excite les oreilles et qui permet de parler de sexualité sans tabou. C'était une émission, c'est devenu un podcast.
Ouais.
C'est juste une question de budget.
Oui,
c'est ça, tout simplement, on peut le dire. Hein.
Non, mais parce que l'émission télé coûtait 50 euros et le podcast en coûte 20. Donc, du coup, il y a un truc assez. Avec Canal+, on voulait quand même continuer l'aventure crac-crac. C'était compliqué en termes de budget pour continuer la version télé. Donc, avec Canal, on s'est dit, faisons la version podcast. Canal, ça faisait longtemps qu'ils voulaient tenter un podcast en émission. Et puis, nous, on trouvait ça intéressant de continuer l'aventure juste au niveau sonore pour explorer un peu autrement la sexualité.
Juste pour préciser, parce que pour les gens qui ne connaissent pas forcément votre univers, on s'amuse, mais on apprend beaucoup de choses, et notamment avec le format crac-crac, autant l'émission que le podcast, on parlait de sexualité, mais avec des vrais experts.
Bien
on
sûr,
a reçu Maya Mazorette lundi, c'était exactement, enfin, ce que vous faites est exactement dans cette lignée-là. Et c'est tous vos formats, en fait. On a vraiment l'impression qu'à chaque fois, pour toutes les émissions, il faut à la fois apprendre et à la fois délirer et s'amuser.
Mais je pars du principe qu'on ne peut pas juste balancer des trucs et à la fin, il ne s'est rien passé dans le cerveau de la personne qui a regardé ou écouté. Donc, même recette pompette, même si c'était pas l'intérêt principal du truc, pour moi c'était hyper important qu'il y ait une vraie recette et que les gens potentiellement à la fin se disent tiens, je vais refaire cette recette. Mais en tout cas, oui, crac crac, l'idée c'est qu'on apprenne vraiment plein de trucs et que ça soit rigolo.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage. 16h, 18h sur Europe 1.
L'équipée sauvage.
L'équipée sauvage, c'est une compétition avec Mathieu Noël. Hein, et avec dans un instant le sujet d'Henri Delaguerie sur ces Allemands fortunés, propriétaires de résidences secondaires à Majorque, qui exigent le droit de retourner immédiatement sur l'île. Et juste après, découvrez la recette d'Olivier Pouls à réaliser en famille. Aujourd'hui, une purée maison.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures d'infos rieuses ou insolites pour oublier qu'on est coincé à la maison pour un 42e jour d'affilée. Certains commencent à trouver le temps long, mais les plus riches d'entre nous ont des idées, comme ces millionnaires allemands propriétaires de résidences secondaires dans les îles Baléares qui se sont dit
« Ah, ça n'est pas en se déprimant que l'on résout les problèmes. Il faut être optimiste. »
Bien sûr, soyons optimistes. Ils ont donc décidé d'écrire à la présidente des îles Baléares pour lui demander très sérieusement de faire en sorte qu'ils puissent rejoindre leur belle villa avec piscine dans les plus brefs délais, malgré le confinement. C'est de ça qu'il s'agit, Henri Legary ?
Oui, effectivement, 200 lettres, 200 courriers électroniques ont été envoyés récemment. Alors Mathieu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 mois, c'était avant le début du confinement, je vous expliquais que les îles Baléares voulaient lutter contre le tourisme de cuite.
Ah oui, c'est vrai.
Ces invasions de touristes qui font n'importe quoi, ils avaient même voté une loi. Bon, ben là, c'est sûr que le problème est réglé parce que cet été, il y aura très peu de touristes aux îles Baléares, donc sans doute pas de beuverie. Mais c'est vrai qu'il y a ces Allemands qui sont très nombreux dans l'île, 4,5 millions d'Allemands qui viennent chaque année à Majorque, et d'ailleurs notre correspondante à Berlin me rappelait que Majorque, on la surnomme parfois là-bas en Allemagne le 17e land, il y a des riches propriétaires. Ils ont de très belles maisons dans des jolis villages, et parfois il faut le dire, ils ont permis de maintenir un petit peu l'esthétique de ces villages. Mais eux, voilà, ils ont écrit à la présidente des îles Baléares en estimant, ils exigent de revenir immédiatement dans leur maison. Le ton est assez courroucé, ils parlent d'une violation du droit de propriété, ils menacent d'investir leur argent ailleurs, ils veulent une rouverture des boutiques, des restaurants, des golfs et des ports de plaisance. Et puis alors, ils en rajoutent un petit peu, histoire d'alimenter cette guerre qui peut exister parfois entre le nord de l'Europe et le sud de l'Europe. Ils rappellent que l'Allemagne a obtenu de bien meilleurs résultats dans la lutte contre le coronavirus en appliquant un confinement beaucoup moins strict. Donc voilà, c'est des lettres assez désagréables. On n'a pas réussi à trouver des Allemands qui ont bien voulu témoigner, mais enfin, il y a quand même sur la télé TV13 une Suisse allemande qui, elle, n'a pas signé cette lettre, mais qui, elle aussi, veut retourner chez elle. On peut l'écouter, c'est Hélène Kohl, justement, qui l'a traduit.
On n'est pas comme tous ces touristes qui viennent 4 jours dans un hôtel en pension complète juste pour faire la foire. Nous, on vient dans nos maisons, on s'occupe de notre jardin. On pourrait revenir dans l'île avec des protections, en respectant les règles de distance et avec un masque. On ne ferait de mal à personne.
Oui, c'est un argument, enfin, on peut l'entendre aussi. Bon. C'est pas... On se dit qu'ils ont autre chose à faire, mais enfin bon, voilà. Non ?
Effectivement, on peut l'entendre. Et d'ailleurs, finalement, aux îles Baléares, ils comprennent que voilà, les gens ont envie de revenir. Ce qui vraiment a provoqué la colère, c'est finalement le ton et ces menaces. Il y a eu un nombre d'éditos dans la presse locale avec ces titres, notamment « L'île n'est pas à vendre »,« Acheter une maison ne te donne aucun droit de décision sur l'île ». Donc voilà, ça pose problème. Et puis cette situation, on pourra peut-être la retrouver dans d'autres endroits en Europe. Rappelons pour le moment qu'il voilà, y a quasiment plus aucun avion pour les îles Baléares jusqu'à nouvel ordre. En tout cas, j'ai posé la question à Guillermo Gaya. Il est, lui, de cette île de Majorque, et puis il préside une association d'habitants du quartier. Lui aussi, il était assez en colère quand il a pris connaissance de cette lettre. On l'écoute.
Ici, nous avons du soleil, 25 degrés, et ils veulent oublier probablement le coronavirus au soleil à Majorque. Ok, c'est normal. Mais ce qui est très choquant, c'est le ton de ces lettres, avec cette exigence de leur permettre de retourner immédiatement à Majorque, ou de dire que le gouvernement espagnol a exagéré avec les mesures de confinement, que l'Allemagne a mieux géré l'épidémie, etc. C'est aussi très choquant qu'ils accusent le gouvernement de violer les droits de propriété, quand en ce moment c'est beaucoup plus important, le droit à la vie. Bref, la lettre de ces propriétaires, qui ne représentent pas la grande majorité des Allemands qui résident à Majorque et qui respectent les lois, est vraiment lamentable.
Oui, on comprend mieux. Ouais, c'est
et
clair.
Henri, dites-moi, j'ai une question aussi. La plupart des Allemands qui résident à Majorque, c'est seulement pour le soleil ou pour des raisons fiscales aussi?
Non. Il n'y a pas de raison fiscale. D'ailleurs, en fait, de vrais résidents allemands à l'année, je crois qu'il n'y en a que 18 000, j'avais trouvé le chiffre. Donc non, c'est principalement parce que
c'est pour le soleil.
Voilà, c'est une île agréable. Et puis, ce qui est vrai, c'est que j'avais fait le compte une fois. Il y a 22 villes allemandes qui sont reliées par vol direct à Majorque.
Ah oui, donc c'est plus facile.
C'est plus facile pour eux. Et c'est vrai que voilà, ça fait des années qu'ils ont l'habitude d'aller là-bas. Mais je sens qu'il va falloir attendre un petit peu pour eux et pour l'ensemble des touristes étrangers qui ont envie de profiter de ces belles îles Baléares.
Et oui, il va falloir attendre encore un petit peu, ami allemand. Merci Henri de la Guérie. Eva, un dernier mot à l'attention de ces riches Allemands.
Connard.
Ah, on dit Ashlor, mais ce n'est pas très poli, Eva.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Tous les psychologues le disent, le confinement doit être l'occasion de prendre un temps pour soi. L'occasion de se recentrer sur les plaisirs simples et parfois solitaires de la vie. Et ce n'est pas Olivier Pouls qui dira l'inverse.
Je trouve ça assez jouissif de tripoter, de malaxer cette viande.
Oui, avec les cloches derrière, on se croirait vraiment dans le dernier ozon.
Oh,
c'est
non.
Très touchant. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour mes amis, comment allez-vous?
Ça va et vous Olivier?
Écoutez, ma foi, ça va très bien.
Alors, la semaine dernière, Olivier, vous nous proposiez chaque jour une recette facile à réaliser en famille pour impliquer les enfants dans la recette. Cette semaine, est-ce qu'il y a un thème?
Oui, nouvelle thématique. Et alors, je vous propose d'aller replonger dans nos souvenirs d'enfance et de parler ensemble de nos recettes les plus régressives. Vous savez, ces madeleines de Proust, ces petits plats qui nous redonnent le sourire et qui nous rappellent des bons moments de notre vie. Et donc, je vais même mettre à contribution nos amis auditeurs et leur proposer de m'envoyer les plats ou les saveurs qui ont marqué leur vie et dont ils aimeraient que je parle. Et je me ferai fort de leur proposer des recettes et de remettre au goût du jour ces saveurs. Alors pour la première aujourd'hui, j'ai demandé à mon amie Eva, que j'ai eu hier au téléphone pour préparer cette semaine, de nous dire ce qu'avait été ou ce qui est encore aujourd'hui sa petite madeleine de Proust. Alors Eva, vas-y, dis-le nous.
Mais oui, c'est un truc un peu... Enfin bon, je vais vous le dire, voilà, je me lance, ça y est, attention.
Le suspense pourri pour un plat. On n'a jamais vu tant de suspense pour un plat. La chronique a démarré depuis 2 minutes. Le coq monsieur, bam. Deux tranches de pain dans un grille-pain,
claque croque monsieur. C'était une super purée maison dans laquelle on faisait un petit puits, ce qu'on appelait le puits, et on mettait le jus de la viande ou le jus du poulet. Voilà, ou un volcan. Et on mettait le jus du poulet ou de la viande à l'intérieur de ce petit puits. Voilà.
Oui, mettre du jus dans un puits, c'est l'histoire de votre vie.
Même grande. Continuez. Bon, Olivier.
Bon, Olivier, allons-y pour la purée.
Envoyez la purée.
Ouais, vous avez raison, parce que c'est vrai que c'est délicieux, une vraie purée maison. Alors, il y a plusieurs écoles de purée. On pourrait aller dans la purée gastronomique de Joël Robuchon. Mais bon, évidemment, c'est assez technique et assez compliqué à faire en réalité.
Oui, oui, oui.
Donc, on va simplifier tout ça. Écoutez, les cloches sont démarrées.
Les cloches sonnent, c'est l'apéro.
Ça y est, les cloches. Allez, allez.
Alors, le choix de la pomme de terre, tout d'abord, fondamental.
Dites-nous.
Deux écoles, soit de la pomme de terre à chair farineuse, celle qu'on utilise pour les frites, par exemple de la Binch, mais moi je préfère des pommes de terre à chair ferme, comme les rates. Première opération très importante, cuisson des pommes de terre avec la peau pour éviter qu'elles se gorgent d'eau. Et ensuite, on va les passer au moulin à légumes. Là aussi, plusieurs écoles, hein, soit presse purée pour une purée un peu plus rustique, mais moi j'aime bien le moulin à légumes avec la griffine pour en faire vraiment une purée très onctueuse. On va ensuite la monter avec du beurre et du lait. Alors, la quantité de beurre, bah, c'est en fonction un peu de votre rapport aux calories. Certains en mettent vraiment beaucoup, plus un petit peu de lait pour la détendre. Et alors, moi, je sais pas si c'était comme ça chez vous, mais moi, ma maman, elle cassait deux jaunes d'œufs ensuite dans la purée. Et ça donne aussi du goût. Ouais. Ça donne du goût, ça donne une texture. Alors, c'est tout à fait optionnel, on n'est pas obligé de le faire. Il y a une dernière version que je vous propose qui est assez originale, c'est de remplacer le beurre par de la graisse de canard. C'est très bon, ça donne un petit goût à la purée de pommes de terre. Non, c'est pas plus gras que du beurre, hein, vous savez, c'est du gras, hein. On pourrait même penser que le gras de canard contient du meilleur cholestérol que le beurre. Et puis, autre petite astuce si vous avez envie de vous amuser, une cuillère à soupe de moutarde en grains dans la purée, c'est délicieux.
Ah, c'est bien ça.
Ça apporte un petit twist vraiment sympathique. Et évidemment, on n'oublie pas le petit puits et le jus de viande qui va dedans et qui va couler ensuite et qu'on va mélanger avec la purée. Chaque bouchée est un bonheur.
Et voilà. Et voilà.
Chaque bouchée est un bonheur avec Olivier Poul, le roi du twist, on l'aura noté, puisqu'effectivement Olivier est belge et qu'il dit le week-end et le twist, Saint-Tropez, bref, toute une époque. Et surtout, nos auditeurs ont découvert quelque chose d'intéressant au moment de l'orientation pour les enfants, c'est qu'il existe différentes écoles, Sciences Po, l'ENA, HEC, mais il y a aussi des écoles de purée.
Bah, évidemment.
C'est une autre orientation possible pour votre enfant. Bien choisir son école de purée, ça sera l'objet d'une prochaine chronique.
Et elle vous amènera peut-être plus loin que les autres. Figure.
Et voilà, mais
ça c'est sûr. Olivier, on vous retrouve demain et tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe.
L'équipe est sauvage sur Europe.